Marc et salut les Smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et consorts. Vive le catch sur Catch Up. Je suis Raphaël et je suis en compagnie pour ce dernier Monday Night Raw de 2021 et ce dernier Monday Night Raw avant Day One, le prochain pay-per-view. Je suis accompagné de l'inusable, de l'infatigable, de Tonton Chris. Comment ça va, Tonton ?
Oui ! Vive le catch ! C'est d'actualité ! Salut Raphaël, yeah ! De retour pour reviewer le vaisseau amiral de la WWE, mesdames et messieurs, peuple de catch-up ! Wouh ! Comment ça va Raphaël, hier ?
Bah écoute, ça va bien.
J'ai vu que t'étais chaud à SmackDown, donc j'imagine que ce soir, c'est tout aussi chaud pour Monday Night Raw.
En tout cas, c'était chaud que j'ai attaqué ce show. On verra ce qu'il en est ressorti à la fin. Mais ouais, on est reparti sur des bonnes bases avec l'ami Géliel, avec un SmackDown de Noël très festif. Là, nous sommes à Monday Night Raw. On est encore dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes, puisque c'était donc le Raw du 27 décembre 2021 à Detroit, Détroit, dans le Michigan. Et bah oui, hein, on est parti. C'est parti pour ce dernier Monday Night Raw, le dernier de l'année.
Le tout dernier de l'année, ouais, t'imagines un peu, après une année forte en émotion à la WWE, et ben ça y est, on est arrivé dans le fameux dernier Raw de l'année. Espérons que les surprises seront bonnes, mais bon, j'imagine que tu vas en parler assez vite, mais la semaine avait été pleine de mauvais augures.
Oui, alors on aurait dû préparer des petites statistiques, tiens, j'étais en train de me demander, est-ce que on pourrait dire des trucs, tiens, quel aurait le premier Raw de l'année, qu'est-ce que c'était, qui était le main event, tout ça. J'ai rien préparé.
Ah ouais, moi non plus. Là-dessus, je me suis pas lancé. Je me suis pas dit on va faire une rétro. On a des awards pour ça, les amis.
Ouais, on va faire les awards. Mais bah oui, effectivement, Covid plane, hein. Covid plane toujours sur la WWE. On sait qu'il y a eu des cas positifs.
Ouais.
Mais on ne sait pas qui. Et quand on arrive, c'est un peu l'un des intérêts morbides de ces shows, c'est de se dire tiens, qui est-ce qu'on va pas voir cette semaine ? Qui est-ce qui est pas là ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu l'événement finalement, le personnage principal de ce genre de show, ça reste cette incertitude autour des absents, des présents et de la maladie.
Bon, moi je t'avoue que ouais. Moi j'ai vu le show, il y en avait une partie que je savais qui était pas là,
ah ouais.
Mais il y avait une partie que je savais pas à ce moment-là encore, quoi. Donc si tu veux la surprise, ça a été une demi-surprise pour moi, quoi.
En tout cas, ceux qui ouvrent le show, c'est à peu près les mêmes, hein, depuis de nombreuses semaines, j'ai l'impression qu'ils sont abonnés à cette place. Ouais, vous les avez peut-être reconnus, on parle des Tag Team Champions, les RK-Bro, qui sont venus ouvrir le Monday Night Raw. Donc Randy Orton et Matt Riddle, qui nous ont joué toujours un peu leur même jeu, avec un Riddle qui dit un peu n'importe quoi, il veut faire lire à Randy Orton les vœux de Noël. Et puis bon, on apprend aussi qu'il y aura ce soir la finale du tournoi du RK-Bro Tournament. Voilà, ça c'était une surprise. On croyait les Street Profits malades ou blessés, je ne sais plus, mais non, ils sont bien là. Ils vont affronter les Mysterios ce soir et les vainqueurs seront à Day One contre les RK-Bro. Voilà, avec Riddle qui raconte un peu qu'ils ont fait la fête, le repas de Noël, ils ont mangé des burgers, que Randy Orton a dit qu'il était le meilleur ami de Matt Riddle. Donc ça nous joue toujours la petite soap opéra. On rigole. Randy Orton qui veut passer aux choses sérieuses. Ils sont interrompus par le Alpha Academy, donc avec Chad Gable qui débarque avec Otis. Gable qui dit qu'il est très intelligent et d'ailleurs il trouve énervant que la foule le hue. Il dit comment ça se fait qu'on hue l'intelligence et le talent. Bon, c'est normal, on est à Détroit, voilà, on fait un peu de cheap heat. Et il lui dit qu'il va facilement battre Riddle et que Otis c'est une vraie machine de guerre, hein, que Otis c'est son poulain, que personne n'a de chance contre Otis et surtout pas Randy Orton. Donc, on comprend qu'on va avoir deux fois des interactions solo ce soir. Et on démarre, en fait. On a démarré directement avec un match entre Riddle qui affronte Chad Gable. Chad Gable qui promet de remporter assez facilement cette performance. Et il a un peu le dessus en début de rencontre avec du Chad Gable, hein, prise au sol, sur le tablier, des soumissions. Mais il va finir par encaisser les coups de genoux et la virevoltance de Matt Riddle qui va lui faire... alors, je ne sais plus comment il s'appelle cette prise-là. C'est son bro, floating bro ? Non, c'est quand depuis le turnbuckle,
ouais,
là, quand
ouais,
il...
Ouais, c'est ça, ouais.
Floating bro, et il va l'emporter. Riddle va gagner. Bon, il ne va pas fêter rapidement puisque Otis va lui mettre un énorme coup, un bon coup de bouchon là dans l'épaule. pour faire le ménage, parce qu'il a raison, après tout, Otis, hein, on passe à la suite, il y a un autre match qui s'ensuit, et le match qui s'ensuit, bah, c'est Randy Orton contre Otis. Donc là, Otis qui est costaud d'entrée, hein, il le malmène à Orton, il le soulève, il l'écrase, il le splatch, il l'envoie un peu partout. Mais il commet une erreur, Otis, c'est de descendre à l'extérieur du ring, d'essayer de faire une charge contre Orton qui est dans le coin, et hop, il se prend le poteau. Et ça, voilà, ça arrive. Prendre le poteau, c'est souvent un turning point dans un match. Otis, ensuite, sur le ring, aura plus de mal. Il va éviter une fois un RKO en repoussant Orton, une deuxième fois. Mais finalement, bah, il encaissera une troisième fois. Enfin, la troisième fois, ça va être la bonne. RKO, victoire de Randy Orton. Bah voilà, la RKBro 2-0, Alpha Academy, c'est pas pour tout de suite, et les champions se congratulent en faisant un petit câlin, Randy Orton qui y va, qui fait un câlin, qui fait semblant de faire un RKO à Riddle, mais il le fait pas parce qu'il est gentil maintenant, qu'est-ce qu'il est rigolo sur Randy Orton, et c'est formidable, et tout le monde est content. Est-ce que tu étais content, tonton, sur ce segment d'ouverture ?
Est-ce qu'on rigole avec Randy, quoi ? Non, mais c'était « Detroit is RKBro, baby !» Ah, mais c'était bon. Alors, déjà, première note, c'est que le son live était de retour. On, était, on avait quitté SmackDown enregistré. Et ça faisait du bien d'avoir le public du Michigan au taquet. Et voilà, une vraie pop avec un vrai public, tout de suite, ça change. Hein. On voit la différence hein, dans un show. Hein. Malheureusement, le SmackDown de vendredi sera également enregistré. Voilà, les amis, ça c'était pour la mauvaise nouvelle de la semaine. On continue. Écoute, tu l'as très bien décrit, tout cet opener-là avec ces deux matchs, etc. Alors, les matchs sont pas anecdotiques, hein, parce que le match, quand même, le Gable Riddle dure 4 minutes. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. J'ai trouvé que techniquement, c'était assez bon. Et le Randy Orton Otis dure 3 minutes 30.
Ouais,
avec, avec quand même, on peut le dire, une belle résistance de la part de Otis, malgré un match effectivement assez court. Mais on sent que là, le public est tellement derrière que tout le monde attend en fait le finish avec ce qui va se passer avec Orton et Riddle dans le ring. Riddle, j'ai l'impression qu'il est là depuis 10 ans, quoi. Et c'est assez bizarre, là en ce moment Riddle il me fait un effet assez incroyable et vraiment moi j'adore, je continue à adorer cette histoire des RKBro, là c'est vraiment génial. Randy Orton over comme jamais, hop stratosphérique quoi, dès que le Riddle il balance des Randy, tu peux y aller, la salle elle est à fond et c'est génial. Alors au niveau catch c'était pas extraordinaire, mais comme c'était dans une ambiance super fun, et bah du coup ça donnait un opener assez enjoué ma foi. Et plutôt cool, et les RKBro continuent leur petit bonhomme de chemin. Des champions solides, hein, mine de rien.
Des champions solides, des champions ultra populaires, hein, ça c'est sûr qu'on en parlera aux awards, mais c'est une des grosses bonnes surprises de l'année. Ouais, Riddle, il a complètement trouvé sa place et son personnage, et ça va super bien à Orton, et pourtant, là on peut dire que dans nos booking fantasy de fans, on n'aurait pas imaginé cette configuration, donc des fois les bookers sont meilleurs que nous quand même, tant mieux, heureusement, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça.
Tout est là, et puis même les petits détails, tu vois, ils sont dans les petits détails, quoi. Tu parlais du fameux, la fin de RKO, du Randy, quoi. Ben voilà, tout ça c'est des petits détails, quand tu vois la tête de Riddle sur ce segment, c'est extraordinaire, quoi. Et vraiment, ça passe crème, et ouais, vraiment un segment vraiment sympa, un opener vraiment cool.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, et puis en plus c'est vrai que, bah tu vois, tu dis belle résistance d'Otis, il a été plutôt montré costaud, et c'est vrai qu'il est, ouais. Lui aussi je pense qu'après avoir eu un peu des déboires et des errements, là ils lui ont trouvé un rôle qui le fera peut-être pas aller très loin, mais de brute épaisse qui lui va comme un gant, donc pas de soucis pour ça, pour ces mecs-là. Bon, par contre, c'est un peu plus compliqué autour des histoires principales, là, puisque... pour le titre suprême, hein, le fameux titre de la WWE, donc qui sera défendu dans un Fatal 4-Way, mine de rien, quand même assez dantesque à Day One, si tout le monde est là, hein, entre Seth Rollins, Bobby Lashley, Big E le champion et Kevin Owens, bah, y a que le dernier que je viens de citer qui est là ce soir. Il va faire une petite promo, une petite interview backstage, et puis on va le revoir à plusieurs reprises, on y reviendra, mais sinon... Bah, Big E, promo enregistré depuis son salon ou je ne sais où, son garage. Seth Rollins, depuis devant son sapin de Noël, où il nous dit c'est l'esprit de Noël, tout ça. Bon, en gros, on nous raconte que voilà, Orton, pardon, pas Orton, Owens et Rollins, ils seraient finalement bien copains, ils travaillent ensemble. Big E, bon, il va se défendre contre tout le monde, mais beaucoup d'absence hein, là ce soir, on va en parler un peu plus tard, on va faire dans l'ordre chronologique, mais on sait d'avance qu'ils vont nous manquer ceux-là.
Ouais, ils vont nous manquer, mais enfin bon, ça va, ça, heureusement ça tombe sur le Go Home Show de Day One,
ouais.
Si tu veux, si on peut se consoler, c'est un peu là-dessus, c'est cette affaire-là. Du coup, effectivement, trois des protagonistes sont absents. C'est Keo qui va tenir la soirée, et on va en parler suffisamment, je pense, bientôt. Et du coup, moi, je suis hypé hein, pour ce match. Hein. Franchement, tu l'as bien décrit. C'est un truc là, on a quasiment pour moi un match All-Star là. Et vraiment, je suis en attente de ce Fatal Four Way parce que ça va être quelque chose. Et puis bah Keo, il va tenir la baraque et il va rappeler pourquoi, à quel point on est heureux qu'il ait re-signé à la WWE.
Ouais, ils s'en sortent pas trop mal d'avoir ces absences là maintenant. Je croise juste les doigts très 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 fort pour que tout le monde soit là à Day One et qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Après, ils ont fait le taf, hein. Seth Rollins, je sais pas si c'est une histoire de Covid ou pas, mais voilà, il a bien fait le taf, je trouve. Il avait même son beau costume depuis son salon, donc.
Ouais, Seth Rollins, Biggie, Lashley, tous, là, ils sont tous dans l'histoire du
Ouais.
Covid. Là. Ouais. Là, si tu veux, la liste est longue en plus, hein. Donc, si tu veux, il a ce show de Monday Night Raw, il est quand même un peu particulier parce qu'il a été fabriqué avec les moyens du bord. Ça va même jusqu'à te dire qu'il n'y avait pas même les officiels habituels de Monday Night Raw n'étaient pas là. Par exemple, Adam Pearce n'était pas là. Vince McMahon n'était pas là. Kevin Dunn n'était pas là. Bruce Pritchard n'était pas là. Tous les officiels de Monday Night Raw qui sont là tout le temps, autant qu'ils des fois sont peut-être pas forcément à SmackDown, mais sont tout le temps à Monday Night Raw, et ben, étaient tous absents. Je crois que c'est John Laurinaitis qui était chargé du show, avec un certain Ed Keskay, qui était voilà, qui est un mec, je pense, qui est issu du Performance Center. Et c'est eux qui géraient le Monday Night Raw de cette semaine. Voilà, tu sais tout sur le backstage, mon bon
Ah
Raphaël.
ben là, on a les coulisses, très bien, ok, on sait tout. On sait tout, on peut continuer, et ben voilà, il y a des absents, il y a des présents qui peuvent en profiter, ma foi. Et donc, on nous sort du chapeau un extraordinaire intergender tag team match
Ouais.
avec la championne 24-7, puisque c'est une championne, hein, c'est un titre mixte, Dana Brooke, qui est accompagnée de Reggie, qui s'appelle plus Reginald, qui s'appelle juste Reggie, ça j'ai découvert, ça c'est peut-être plus vieux que ça, mais moi j'ai découvert. Et ils affrontent donc R-Truth, le pilier de la division 24-7, et Tamina, qui, on ne sait pas pourquoi, depuis quelques semaines, a choisi qu'elle aussi, son plus grand désir, le plus cher dans sa vie, c'était d'avoir le titre 24-7. Bon. Alors, ce qui est drôle, c'est que du titre 24-7, il ne sera absolument pas question, puisque c'est un match tag team et que voilà, le titre est bloqué pendant cette période. Bon, on a un match assez anecdotique. Hein. Alors, la seule petite particularité qu'on peut dire, c'est que visiblement, les règles classiques de l'intergender, c'est-à-dire que quand il y a un homme, on met un homme en face, quand il y a une femme, on met une femme en face, n'a pas été comprise par tout le monde, puisque tout le monde a essayé de se taguer. On a eu des affrontements, pas très violents, mais entre hommes et femmes. Je sais plus si c'est Tamina qui met un kick à Reginald, je crois. Voilà. Et puis, ben, au final, c'est Reginald qui fait son espèce de finisher roll-up renversé là, sur un truc pour l'emporter. Et au final, ben, c'est la victoire donc de Dana Brooke et Reginald. Et puis ensuite, il y a un petit segment où Tamina prend cher, là. Dana Brooke lui fait son espèce de pirouette qui finit par un splash dans le coin avant de partir. Voilà, tout ça était de la low-card. Est-ce qu'au moins ça t'a diverti un peu ou c'était vraiment pour combler?
Le bridging O'Connor Roll de la part de notre ami Reggie. Big up à Tony Voris sur Twitter. Alors, un match totalement anecdotique, 2 minutes 45, un truc qui n'aura pas servi à grand-chose. Peut-être à entériner un peu plus le heel turn de Tamina hein, qui depuis qu'elle a quitté Natalia naviguait un peu à vue et de plus en plus méchante parce que finalement R-Truth il affrontait Reggie Dannebrog mais R-Truth on sent que voilà qu'il reste babyface quoi et le comportement de Tamina à la fin est inadmissible hein, s'attaquer comme ça à un homme de presque 50 ans non mais franchement hein non mais quel scandale et puis Reggie Dannebrog bah écoute c'est une espèce d'histoire d'amour qui commence un peu entre eux deux et Dannebrog pour l'instant est peut-être la championne 24-7 la moins emmerdée de l'histoire.
Ah bah oui, puisque personne ne veut toucher aux femmes, ça c'est formidable aussi à WWE. Là, j'étais pas là pour le commenter, mais j'avais trouvé ridicule ce segment là où elle gagnait le titre et où elle se retrouvait championne avec derrière les immenses T-Bar, Mace et tout, qui étaient là. Oh, bah, c'est une femme, on va quand même pas taper une femme. Et bah ouais, si voilà, si bah, ouais, elle est championne, du coup elle est peinarde. Il n'y a que Tamina qui a l'air intéressée pour le moment. Mais peut-être que d'autres vont s'y focaliser à un moment donné, je ne sais pas.
Ouais, on verra ça, ouais.
Ouais, où Reginald fomente un truc. Hein, on a déjà vu hein, des histoires d'amour qui étaient brisées à cause du titre 24-7. Enfin, brisées peut-être pas, mais on a quand même vu. Putain, comment ils s'appelaient là, Les deux cassos, la famille Canelli se faire des pinfalls sur une table d'échographie. Là, c'était la grande époque, ça, du titre 24-7.
C'est vrai. Ah, j'avais oublié ce segment. Il avait été banni de ma mémoire et tu viens de me le ramener. Et je vais m'endormir en revoyant les Canelli en train de faire des pinfalls sur la table d'échographie. Merci, Raphaël, hier. Yeah.
Bah, je t'en prie, c'est mon petit cadeau de Noël. Alors, tiens, pour me faire pardonner, un autre cadeau
Herman
qui va faire.
Ah non.
Non, ce coup-ci, je t'envoie tes petits chouchous. Je t'envoie les Mysterios.
Alors, les Mysterios. Alors, j'ai un énorme erratum à faire à propos de ça.
Et oui.
Donc tu tombes bien.
Eh ben oui, parce que donc les Mysterios vont affronter les Street Profits, la finale du tournoi pour les challengers au titre de RK-Bro. Donc toi, tu avais dit que
j'étais
direct.
Erratum, Erratum, peuple de ketchup. J'ai dit une énorme connerie la semaine dernière, un énorme bullshit. Je sais pas pourquoi. J'ai revérifié en plus, mais c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai mal interprété le match. C'est-à-dire que en fait, je vous ai annoncé que les Los Mysterios étaient déjà qualifiés finalement contre Randy Orton et enfin contre les RK-Bro. Et en vous disant, ouais, ils ont gagné le tournoi, machin, etc., etc. Mais en fait, non, le match qu'ils avaient gagné la semaine dernière, c'était le number one contender pour devenir en fait le number one contender et participer à ce match pour devenir le number one contender face aux Street Profits, quoi. Donc j'ai dit une grosse connerie. Donc je m'en excuse, peuple de ketchup. Bien, bien bassement. Acknowledge me.
Mais alors, peuple de ketchup et tonton Chris, était-ce une grosse connerie ou était-ce un spoiler? On va voir ça de suite. Alors, les Mysterios, ils sont tous de rose vêtus, m'ont rappelé un petit peu les Matadores d'ailleurs. Et ils affrontent des Street Profits qui ont un peu changé de style aussi, hein, avec Montez Ford qui est moins virevoltant, là, qui a mis ses petites dreadlocks, qui est un peu plus sérieux. Épaissi aussi, ouais.
Ouais, t'as pas trouvé? Moi, je le trouve.
Il est impressionnant.
Plus épais, quoi.
Ouais. Et on a un match quand même globalement de très bonne qualité, on va en parler, mais avec beaucoup de moves et de suspense. Hein, moi, j'ai trouvé ça énormément échangé de part et d'autre. Dominique qui a sauté depuis le ring pour descendre sur... c'était pas mal, Dominique avec Andrew Dawkins, ouais, pardon. Ouf, fatigué. Et Montez Ford, qui était plutôt avec Rey Mysterio. Enfin, il m'a semblé que ça combinait un petit peu comme ça. Les Mysterios ont eu des gros moments. Hein. Il y a eu l'enchaînement 619 de Rey Mysterio, le Frog Splash de Dominique, hein, qui a fait son petit hommage à son papa d'adoption, son tonton Eddie. Mais ça a fait simplement 2,5. Bref, les Mysterios avaient le match pas mal gagné, mais Dawkins a renvoyé justement Rey à l'extérieur du ring, là, en le faisant tomber face contre terre. Et ça a permis à Montez Ford de prendre les devants. Ils ont pris le petit Dominique sur les épaules, hop, ils ont fait le finisher, le blockbuster. Et les Street Profits l'ont emporté pour devenir donc officiellement les challengers au titre de RK-Bro. Donc ça nous promet un très gros match. On a eu déjà un beau match là. Par contre, à ma surprise, hein, on n'a pas creusé les tensions entre les Mysterios qui ont plutôt fait le match efficace. Hein, il n'y a pas eu de dispute, il ne s'est rien passé. À la fin du match, on ne les verra pas. D'ailleurs, on verra juste les Street Profits célébrer avec la foule. Et donc, on avance un peu d'un cran dans cette histoire de la scène tag team. Est-ce que tu as pris 10 bonnes minutes là, de régalade?
Ouais, c'était très bien comme ça. 12 minutes même, 12 minutes de régalade. Quoi. Donc, ça fait plaisir. Comme tu l'as dit, un bon match. Quoi. Vraiment, c'était vraiment cool. Quoi. Alors, avec deux équipes aux alignements babyface, avec les Street Profits aussi qui avaient ressorti les tenues de NXT. Alors, je ne sais pas si c'était un clin d'œil ou si c'était une espèce de total hasard, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez sympa de les revoir avec ces tenues-là. Et comme je l'ai dit, Montez Ford, que je trouve assez épaissi, que j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup, beaucoup à la salle, que je trouve qu'il a pris beaucoup de bras, entre autres. Mais par contre, toujours spectaculaire, toujours ce splash de folie. Alors, les Mysterios, hein, Ray, bon, Ray, il n'y a pas de problème, Ray, ça déroule. Hein. Alors, Dominique, alors j'ai vu sur le Discord, il y a Wallagan, je crois, par exemple, qui s'en plaint un peu, hein, qui dit que ça botche et tout. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Wallagan, il y a eu quand même plusieurs phases où il a botché, en particulier sur le double 619, mais je lui en veux pas parce que je pense qu'il est perturbé, il s'attend à avoir papa qui arrive avec lui en double, et puis en fait, il arrive tout seul, et du coup, il foire un peu. Derrière, il passe un kick, pareil, quand même très limite, mais que Montez Ford vend super bien, donc ça sauve un peu le truc. Mais sorti de ça, voilà, à part quelques approximations, mais Dominique, il reste jeune, mon ami Wallagan, il reste jeune, le Dominique, hein, il apprend. Et on en reparlera dans 10 ans. On en reparlera au dernier Raw de l'année 2030, 2031. Ouais, voilà, allez, parlons, dis, faisons un pari là-dessus. Mais en tout cas, c'était un super match tag team. Je suis content, on va avoir une belle finale. Encore donc bien là, face contre face, Street Profits versus RK Bro. Ça va être excellent. Donc écoute, je suis emballé hein, un peu par la tag team division de Monday Night Raw ces derniers temps. Hein.
Ben, tant mieux, très bien. Moi, j'ai été plutôt content aussi de la performance du match. Et en plus, c'était un vrai match de number one contender avec du suspense. Ça aurait pu être n'importe laquelle des deux tag team. Hein. Il y avait de la place pour le shot.
C'est vrai, c'est vrai. Et ça se termine, d'ailleurs, tu l'as dit, en fait, ça se termine, il n'y a pas de problème entre père et fils et tout ça. Ça se termine d'une manière super clean. Les Street Profits célèbrent avec le public. Tu vois, enfin, vraiment, une ambiance bon enfant.
Sans haine ni violence, comme on peut dire.
Sans armes ni haine ni violence.
Sans armes ni haine ni violence. Alors de la haine, on a un petit peu plus dans le segment qui suit, puisque c'est une tag team qui n'existe plus. C'est la tag team, les champions tag team de WrestleMania, AJ Styles et Omos ne sont plus copains. Voilà, il y a eu la dispute la semaine dernière et ce soir Omos n'est pas là. Parce qu'on ne sait pas trop quand devait avoir lieu ce match. Hein. Omos, il avait dit la prochaine fois qu'on se recroise, c'est pour s'affronter, mais il n'avait pas.
C'était là. Ah non, c'était là.
C'était annoncé. C'était annoncé.
C'était annoncé à ce Monday Night Raw.
C'était annoncé à ce Monday Night Raw. Bah, désolé, cher public, ça n'aura pas lieu. Hein, on peut le dire. AJ Styles arrive et il nous dit que voilà, qu'il sait pas. Omos n'est pas là, mais lui, bah, voilà, il n'a pas peur d'Omos. Il est prêt. Il est prêt à l'affronter, il a eu une longue carrière, ça fait 20 ans qu'il affronte, il en a vu des géants arriver et repartir, mais AJ Styles, lui, il est le seul et l'unique phénoménal. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que dans le public, il y a un mec qui tient une pancarte, et AJ Styles le reconnaît parce qu'AJ Styles, croyez-le pas, la semaine dernière, il allait faire un petit tour à NXT 2.0. Qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? On ne sait pas trop encore, et on ne sait pas trop encore où tout ça va le mener. Mais il croise Grayson Waller, qui est voilà, une nouvelle superstar de ce NXT 2.0, là, un nouveau petit rookie, qui du coup débarque sur le ring et se présente. Voilà. Et alors, bon, c'est pas une ambiance très chaleureuse, hein, clairement. Grayson Waller, il dit à AJ Styles, quand Omos t'aura défoncé, moi je te prendrai ta place. AJ Styles lui dit, voilà, toi t'es pas une star, t'as rien à faire ici. Ici c'est la place des stars, t'es pas encore au niveau, t'es très loin d'être là.
Donc il y a une. Juste pour appuyer sur un truc quand même, c'est que Grayson Waller, quand il passe la barricade et qu'il prend le micro, je trouve que c'est assez juste ce qu'il dit, parce qu'il lui dit, bah, après tout, toi la semaine dernière, t'es venu à NXT, quoi, et je vois pas pourquoi moi je pourrais pas m'inviter à Monday Night Raw cette semaine, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était que ça, son entrée en matière pour venir avoir une petite confrontation avec AJ Styles était plutôt bien trouvée de la part du jeune.
Ouais, bah lui il était à l'aise, hein. Il l'a dit, d'ailleurs il a un peu dit ça tout le temps, il a dit, ouais, c'est... Il regardait autour de lui, il dit, ouais, c'est pas mal d'être là et tout, ouais, c'est bien quand même d'être à Raw. Bah oui, c'est sûr, hein, ça fait du monde, hein, c'est quand même la biggest stage de l'entreprise et du métier. Mais bon, AJ Styles, voilà, essayer de lui faire comprendre quand même qu'il faut respecter un peu l'ordre établi. En plus, Styles, comme certains de ces superstars WWE qui ont été signés sur le tard, il aime bien nous rappeler aussi qu'il a mis 20 ans avant d'arriver là, donc il est un petit peu réac des fois sur les bords. AJ Styles, il faudrait que tout le monde en bave autant que lui. Bon, ça dure pas très longtemps cette interaction, puisqu'ils sont interrompus par Apollo Crews qui débarque avec son fameux Commander Aziz, et ils vont faire fuir le petit rookie d'NXT, Grayson Waller, qui va pas rester plus que ça.
Il n'insistera pas.
Voilà, il n'insistera pas. Donc en gros, voilà, Apollo Crews, il nous dit, bah voilà, toi t'as perdu ton géant, mais moi j'ai toujours le mien, et mon géant à moi, il veut venir te défoncer. Aziz, qui parle pas souvent, nous dit quelques mots. Voilà, il dit AJ Styles, ce soir, te défie pour un match. AJ Styles, il a envie visiblement de passer ses nerfs. Il dit ok, mais. Hein, qu'est-ce qui s'est passé là, tonton Chris? Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Le temps de faire une espèce de pause publicité, une interview avec Carmella ou je ne sais quoi, on revient. Au moment où on revient sur le ring, et ben en fait, c'est AJ Styles contre Apollo Crews. Et on nous dit, ah oui, mais en fait, avant que ça démarre, Apollo Crews, il a dit, non, mais finalement, c'est moi qui veux affronter AJ Styles. Bon. Est-ce que tu as compris quelque chose, toi, déjà, dans ça?
Non, non, mais je crois qu'à peu près comme tout le monde, hein, là, vraiment, il s'est passé un truc là pendant la pause commerciale totalement inexplicable. Surtout que vraiment, on sent que Commandant Aziz, il est chaud, quoi. Il a enlevé sa veste, il est passé par-dessus la troisième corde, il arrive. Et Apollo Crews l'accompagne toujours avec son espèce de sceptre africain là dans la main. Et on se dit vraiment, ah bah voilà, c'est parti, tiens, c'est peut-être l'un des premiers combats en one-on-one de Commandant Aziz. Et bam, au retour, on a un match qui a déjà commencé et qui est alors vraiment incompréhensible. Non, là, écoute, je ne cherche pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on a découvert que Commandant Aziz était positif au Covid. Il y a peut-être eu un autotest ou un test par l'arbitre qui a été fait. Et on a fait, ah, Commandant Aziz, il ne peut pas catcher ce soir.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas c'était incompréhensible et en plus décevant, parce que comme tu le dis, moi j'aurais bien voulu voir le commandeur un peu se frotter à quelqu'un sur le ring, et on a un affrontement un peu plus classique, je dirais un peu plus attendu. Bon, on a eu une belle performance de part et d'autre, hein. D'ailleurs les commentateurs l'ont dit, hein, deux superstars de talent dans la force de l'âge, dans la belle musculature, hein. Ça s'est envoyé un peu dans tous les sens et dans tous les coins, mais c'est quand même AJ Styles qui est largement dominant sur le papier et sur le match, et qui réussit alors... Ah oui, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, il gagne en plaçant son Styles Clash, qui est assez rare quand même de le voir finir sur ça, mais juste avant, il n'y a pas une espèce de move un peu botché aussi, où ils s'y reprennent à deux fois pour faire un truc, je ne me souviens plus. Enfin bref, en tout cas, AJ Styles l'emporte. Et ensuite, ben, il va même rajouter une petite couche, puisque quand le commandeur Aziz remonte sur le ring, et ben AJ Styles, qui fait mine d'être parti, revient lui envoyer un phénoménal forearm dans la tronche. Et ben voilà, finalement, c'est le vétéran du duo Styles-Omos qui part un peu en run babyface, là, et qui a fait face à l'adversité venue du fin fond du Nigeria. Est-ce que ça t'a plu tout ça, ou est-ce que ça collait un peu les morceaux des absences des uns et des autres?
Ouais, alors écoute, malgré tout, c'était quand même assez anticlimatique, hein, l'histoire de Aziz remplacé par Apollo, tout ça sans aucune explication. Donc du coup, tu perdais un petit peu de temps à te mettre un petit peu dans le match avec Apollo, quoi, en cherchant à comprendre le pourquoi du comment, quoi. C'était à croire qu'ils savent pas, ou alors que les mecs ont écrit des trucs et puis qu'ils se rendent compte, tu vois, juste avant la cloche, que ah merde, mais on avait écrit ça en fait, c'est pas ça qui doit se passer, tu vois, et qu'il y a un mec qui se précipite au micro dans la Gorilla Position pour parler dans l'oreillette de l'arbitre, quoi. Ça fait un petit chouille amateur quand même sur les bords, quoi, je trouve, quoi. Et c'est assez surprenant de la part de la WWE qui quand même fait pas ce genre de pratique, pas ce genre de choses, quoi. Donc là, on sent quand même qu'il y avait dans tout cet épisode qu'il y avait un peu de la panique à bord avec tout ce qui se passait avec le Covid, avec les absences, avec les réécritures de show, avec les absences d'officiels, etc. Donc je crois que ça retransmet cette panique. Heureusement, après, derrière, AJ Styles et Apollo qui nous sortent un match de 11 minutes et un match bon, et en plus qui fait son office en termes de storyline, c'est-à-dire que grâce à ce match, AJ Styles peut entériner complètement son face turn malgré l'absence de Omos, qui lui inaugure son premier no-show. AJ Styles, il en profite, et avant même d'avoir lancé le match contre Omos, qui je pense était prévu certainement pour faire passer le face turn de notre ami AJ, là on a pu le faire passer face à Apollo Crews et Commandant Aziz, et du coup je trouve que c'est plutôt bien joué, ça. Et AJ Styles a fait tout ce qu'il fallait avec le public. Au fur et à mesure du match face à Apollo, se transforme de plus en plus en babyface. Quand il réussit à sortir de soumission, il est là au sol, avec le poing levé, regardant, là, scrutant un peu discretos la foule et tout, pour voir comment ça réagit. Et puis plus ça va fort avec Aziz et Apollo, et plus on sent que le public est de plus en plus derrière lui. Et puis qu'au bout d'un moment, les AJ Styles commencent à résonner dans tous les sens. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que Monday Night Raw manquait de babyface en solo, et un vrai très bon babyface. Et AJ Styles peut être un excellent babyface. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle de ce Monday Night Raw. Et puis finalement, la fin, ça part un petit peu en cahuète, mais c'est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'ils vont en profiter? Moi, je vais terminer là-dessus. Je te dirais que moi, je vois une opportunité terrible dans cette histoire de Commandant Aziz et Apollo. C'est que Omos, il est nigérian aussi. Et que là, il y aurait moyen quand même de nous péter un clan africain, là. Tu vois, depuis la Nation of Domination, qui en fait n'était pas vraiment un clan africain, qui était plutôt des Afro-Américains qui se revendiquaient de l'Afrique. Là, on pourra avoir un vrai clan de catcheurs africains et un clan nigérian et avec deux putains de monstres. Et ça pourrait être super cool, mon Raphaël hier, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, tant qu'ils nous font pas des promos face caméra dans les backstage pour nous expliquer comment on dit le mot violence en nigérian, là, et qu'ils ont toujours grandi dans la violence. Mais non, ça serait une très bonne idée. En fait, c'est ce que j'allais te poser comme question une fois fini ton analyse, c'est te dire, est-ce qu'ils ont pas raté un petit truc là dans la promo d'Apollo Crews pour que, en plus de faire le lien en disant, ouais, moi j'avais un géant, toi t'avais le tien, mais toi le tien il s'est barré, de dire, bah ton homo s'il est nigérian et nous aussi, eh ben j'espère qu'ils vont creuser là-dessus. Je
Peut-être
sais
qu'ils n'y
pas.
avaient pas encore pensé, en fait. Et si tu veux,
Ouais,
peut-être que
peut-être.
justement, dans la précipitation de l'écriture du show, et peut-être que quand ils sont venus backstage, tout le monde, tout ce beau monde, on a dit, tiens, mais ouais, en fait, Homos avec Apollo et Aziz, mais ça serait quasiment une alliance naturelle, quoi. J'espère qu'il y a un mec qui s'est dit ça backstage. Hein. Sinon, bah écoute, Raphaël, on l'a déjà dit, hein, on va aller faire un tour à Stamford, là, et on va aller leur montrer comment on écrit un Monday Night Raw.
Mais ouais, en plus, moi je suis un peu déçu hein, sur la carrière 2021 d'Apollo Crews. Moi je trouvais vachement bien ce heel turn, cette ambiance africaine. Son...
Un beau run de champion intercontinental.
Voilà, j'aime bien son titantron, le Aziz et tout. Il avait quand même battu Biggie à WrestleMania, voilà, avec l'arrivée du commandeur Aziz. Et après, bah voilà, il a perdu, je crois que c'était dans un weekly, le titre à Nakamura. Ça a jamais vraiment repris, il a jamais eu trop de.
Après.
Voilà, il a jamais repris, il n'a pas eu de big title shot dans la suite. Donc moi j'aimerais bien un petit clan et je les trouverais bons. On n'en parle pas de Nakamura.
Ah, non, mais c'est en fait, tu viens de me rappeler ouais, le fait qu'en fait, c'est Nakamura qui a pris le titre à Apollo Crews, qui pour
Mais
moi
ouais.
faisait un run honorable, c'était peut-être pas le run de l'année, mais qui faisait un run honorable avec le titre intercontinental en 2021, et qui pour moi aura fait en tout cas un run qui est carrément pas comparable avec celui de Nakamura. Et quand tu penses que Nakamura n'a pas défendu le titre intercontinental depuis le 14 septembre, mon Dieu,
Non.
bon, allez, j'arrête de me faire du mal.
Alors, ne nous faisons pas du mal et on verra bien. Bon, déjà, quand est-ce que Homos revient? Quand est-ce qu'on aura ce match? Est-ce qu'il nous le casse dans Day One? Est-ce qu'il nous le casse au Raw du lendemain? On verra, ou peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a un beau boulevard aussi pour AJ Styles, hein. Il y a des possibilités. On sait qu'il a toujours été bien aimé des officiels et de la foule. Voilà, il va sûrement y avoir aussi pour janvier certaines remises à zéro hein, de storyline, là, parce qu'il y a du monde
Un
autour de toute la.
certain
Royal
Rumble,
Rumble. On pense à la même
baby.
chose, bien sûr. Et on verra bien ce qu'il en est pour AJ Styles. Nous sommes arrivés à l'introduction de Kevin Owens qui débarque sur le ring. Voilà, KO. KO débarque.
J'aurais voulu parler avec toi d'abord de, bon, en fait, de la première promo qu'il a fait au tout début, qui se passait avant Reggie et tout ça. Tu sais où il est avec le commentateur de Kevin Patrick. Je cherchais son nom à ce gus-là, là. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais cette promo, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a été un truc assez rapide où on voit que KO, il est complètement atterré à regarder, bah, entre autres, la promo de Seth Rollins, quoi. Et j'ai trouvé KO mais succulent pendant cette petite promo, quoi. Quand il dit à Kevin Patrick, ah non, mais j'aime pas ton prénom, t'as une semaine pour en changer. finalement, qui revient vers lui à la fin et qui lui dit, non, mais en fait, je vais t'appeler Burt. Burt, c'est bien. Ah,
Oui, mais...
je trouve KO, mais fantastique au micro. Et donc là, voilà, là tu vas le réenchaîner avec. À nouveau le KO en promo.
Ah ben, KO en promo sur le ring, effectivement, donc on en avait un petit peu parlé au début backstage, moi il raconte alors toujours ces histoires de qui dirige qui, voilà, est-ce que c'est lui qui a pris la décision d'attaquer Biggie et Lashley, est-ce que c'est Rollins, c'est son pote ou pas, qui est la tête pensante, voilà, bon Rollins il a assez évacué le truc assez vite, hein, il a dit c'est Noël, si Kevin Owens veut prendre tout le crédit, bah vas-y prends-le. Quand il arrive sur le ring, Kevin Owens, voilà, il nous dit qu'il est le seul présent là des quatre hein, quand même qu'il est le seul à faire le taf voilà que c'est pas Biggie ou les autres qui disent moi je suis là tous les soirs lui il est vraiment là tous les soirs donc bah voilà il nous raconte à quel point il est en forme il est content il est motivé il va gagner ce titre de champion du monde à Day One mais assez vite il est interrompu par MVP qui est pas content évidemment, MVP qui dit que c'est pas possible hein, que Kevin Owens gagne, que la seule chose à faire d'envisager que Bobby Lashley gagne. On est dans la Bobby Lashley era. C'est Bobby qui va détruire tout le monde. Il faut être stupide pour penser le contraire. Kevin Owens dit non, pas stupide. Alors ma maman dit que je suis un peu spécial, mais voilà, c'est tout. Et là-dessus, nous entendons une musique qui ressemble à celle de Bobby Lashley, mais qui n'est pas Bobby Lashley. Nous avons le retour de Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui arrivent et qui entourent MVP. Bon. Kevin Owens, il commence à se dire « Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ?» Là, on essaie de me tendre un piège. MVP, il joue les innocents. Il dit « Non, non, je ne sais pas de quoi il en retourne. Mais messieurs, que me vaut le plaisir de votre présence ?» Et donc les deux, là, Alexander et Shelton Benjamin, ils disent « Ouais, en fait, Kevin Owens, il a raison. Bobby Lashley, il peut pas gagner ce match. Il peut pas gagner. Personne ne peut gagner à tout seul contre trois. » Sachant qu'on a Kevin Owens sur le ring et que là, on a MVP Alexander et Shelton Benjamin, on se dit « Tiens, ils vont passer à tabac le Québécois, tout ça. » Puis non, en fait, ils discutent. « Ouais, Bobby Lashley, il était au top parce qu'il avait le hard business. Maintenant, tout seul, il fait pas grand-chose. Il faudrait reformer le hard business, tout ça. » Bon, ça palabre. Kevin Owens, il est comme nous. Il prend le micro et dit « Bon, arrêtez vos conneries, on a bien compris. Cedric Alexander, il veut reformer le hard business. » Pour ça, il veut impressionner MVP, donc il veut venir m'affronter. Et ben, viens sur le ring, qu'on se bastonne. Et puis, effectivement, on gagne un peu de temps, puisque Cedric Alexander monte sur le ring et va affronter Kevin Owens dans un match où il a plutôt la part belle, hein, Cedric Alexander, hein, avec sa fougue de sa jeunesse. Il est dans sa prime, lui aussi. Il arrive à prendre le dessus sur le Canadien à de multiples reprises, mais il va encaisser assez vite une belle série. Et en fait, il encaisse une énorme clothesline de Kevin Owens qui sort du coin du ring et qui va lui placer ensuite sa powerbomb puis un stunner. Donc 1, 2, 3 et ça suffira pour Kevin Owens. Shelton Benjamin n'est pas content. Il demande le micro. On sent qu'il va demander un match lui aussi, mais il prend le micro. Au moment où il se retourne vers Kevin Owens, il encaisse un autre stunner. Donc on n'aura pas deux matchs ce soir. On n'en aura qu'un seul et le hard business est assez vite nettoyé. Bon, ben, ça sera le seul vrai segment sur le ring lié au match de main event de dimanche, de samedi, pardon. Kevin Owens a fait le taf, j'imagine, à tes yeux, tonton.
Ah bah pour moi, c'est clairement fait. Hein. Il délivre la marchandise, il n'y a pas de souci. Il fait une méga promo au micro in-ring. Et derrière, il mange tout cru Cedric Alexander hein, en 3 minutes. Hein. Et puis, 3 minutes, et puis vraiment, notre ami. Notre ami Cedric Alexander va être complètement accablé par Kevin Owens quoi, qui va le démolir de manière méthodique et finalement assez rapide quoi. Presque triste un peu pour Cedric Alexander hein, mais Cedric Alexander, j'ai envie de te dire que par contre j'aime pas trop quand je l'entends au micro. Il vaut mieux qu'il parle pas trop. Je pense que ça le dessert plus qu'autre chose. Par contre c'est un bon catcheur et du coup quand il est entre les cordes c'est toujours intéressant. Alors là, il fallait, comme le but de la manœuvre, c'était quand même que Kevin Owens l'expédie vite, parce qu'il ne fallait pas que Kevin Owens apparaisse faible à aucun moment. Quoi. Mais comme Kevin Owens, en plus, il te vend la colère et l'impatience d'être à Day One, là, qu'avec lui, bah, ça marche. Lui tout seul, il a réussi à nous vendre le Fatal 4-Way de samedi. Et merci KO. Quoi. Ah, qu'est-ce que je suis content que le Québécois il reste à la WWE. Et vraiment, il y a peut-être un mois et demi en arrière, j'étais assez sceptique sur le fait qu'il allait rejoindre un peu le main event pitcher, tu vois, à Monday Night Raw. Et puis finalement, il s'est installé. Il a enchaîné là les main events de Monday Night Raw. Là, il l'a pas fait cette semaine pour une raison qu'on parlera après. Mais du coup, Kevin Owens, grosse fin d'année 2021, quoi.
Ouais, bah depuis la draft, hein, depuis qu'il est revenu à Raw là. Il est dans cette storyline, il est bien installé, ouais. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que la WWE, en tout cas Kevin Owens, avait un peu joué ce soir avec leurs propres exaspérations, parce que c'est vrai que quand Owens a commencé à dire « Bon, allez, on catch là », c'est vrai que c'était un peu long. J'ai trouvé le hard business, on comprend pas trop si c'est téléguidé par MVP ou si c'est vraiment sincère, qu'ils sont pas spécialement d'accord. Ça, c'était un peu long et après on a eu ce qu'on avait envie de voir, voilà, Kevin Owens qui
écrit totalement à l'arrache en fait.
Ouais. Donc c'était un peu tiré par les cheveux et les pauvres du hard business, s'ils me font penser, ouais, à je sais pas qui était dans cette configuration, mais voilà, des mecs qui ont C'était un peu les Sacha Banks et Bailey d'une époque. C'est-à-dire, selon qui il y a ce soir, on les fout ensemble, on les fout les uns contre les autres. Ils sont copains, ils sont pas copains. Là, Benjamin et Alexander, ils ont tout fait cette année. Mais bon, c'est du remplissage, hein, comme on dit. Et écoute, il nous reste notre main event catchesque. Hein.
Le main event catchesque, et puis il y a juste une petite vignette, je crois que t'as oublié. Mais,
Ouais, je vais en parler, je vais en parler.
Ah, tu voulais en parler?
Ouais, je vais expédier un peu toutes les vignettes d'un coup. Alors, on a eu des vignettes autour de la tag team féminine. On a vu Nikki H, puis Carmella, pour nous dire qu'on aura encore un match entre les nouvelles championnes et puis les anciennes championnes, en gros.
On donne leur rematch, voilà.
Ouais, on leur donne leur rematch. Et puis, nous avons vu avant ce fameux main event catchesque, qui est quand même un match pour le titre US entre Dolph Ziggler et Damian Priest. On voit Damian Priest dans les coulisses qui nous explique qu'il a une part d'ombre et une espèce de démon, de Damien démon en lui qui laisse sortir de temps en temps et il faut se méfier, mais c'est ça aussi qui fait sa violence. Donc est-ce qu'on va avoir droit à une espèce de démon Priest ce soir? C'est la grande question. C'est ça, c'est un de ces segments-là dont tu voulais parler?
Non, même pas, mais tu vois, ce segment, en fait, il est tellement rapide et il est tellement répétitif depuis des mois et des mois. Que bah même les chroniqueurs, quasiment tout le monde l'oublie à force. C'est le Coming to Raw, Raphaël, bon sang.
Qui
Coming to Raw depuis des mois? Le mec est parti de New Delhi à pied et depuis il cherche à rejoindre les États-Unis à la nage.
Bien sûr. Ah ben on a eu un peu plus, hein. Ça, on a franchi un palier là.
Ah ouais, t'as trouvé?
Ah ouais. Ah ben ouais, il a parlé, non? C'était, on l'a entendu un peu parler et tout. C'est pas la première fois qu'on a ça là dans son.
Il a parlé? Ah non, il a pas parlé. Peuple de catch-up, il a parlé. Virman? Non.
Il me semble
Il a grogné peut-être ou roulé des yeux, non? Mais.
Si, il y avait pas une voix off où il disait un truc du genre, par chez moi, on va chasser le tigre ou chasser le fauve et on le fait des fois, je sais plus, enfin.
Ah ouais. Truc comme... En tout cas, on est injuste avec la WWE. Hein, parce que finalement, elle a jamais dit en quelle année il venait, Virman. Elle a juste dit Coming to Raw, c'est tout, quoi.
C'est ça. Non, j'ai pensé à un autre segment après, parce que nous avons aussi ouvert la porte du main event dans les coulisses en voyant qui allait être dans le main event ce soir. Mais on va en parler un peu plus tard, tu vois. Parce que le vrai main event n'est pas catchesque, peuple de catch.
Non,
mais
non.
Quand même, le dernier match de la soirée, c'est ce fameux Dolph Ziggler contre Damian Priest. Donc pour le titre des États-Unis. Alors, il n'y a pas Robert Roode, hein, il n'est pas aux abords du ring. Et on a un affrontement entre les deux où chacun va jouer un peu sa partition. Dolph Ziggler, qui récite ce qu'il sait faire. Voilà, c'est finisher, enfin pas finisher, mais c'est prix spécial. C'est pas zigzag qu'il n'arrivera pas à placer, mais diverses talentueuses performances. Et puis Damian Priest, lui, qui joue un peu son rôle de gros costaud, son nouveau personnage. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne me souviens plus. Ah oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, Dolph Ziggler, vers la fin du match, là, quand il se dispute, lui met une grosse baffe dans sa tronche. Là, Damian Priest, il écarquille les yeux, il se retourne vers le public. Ça y est, on sent que la bête est énervée. Et à tel point qu'il va envoyer Dolph Ziggler dans le coin du ring, il va le tabasser. L'arbitre qui compte 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est 5. Ça y est, donc disqualification. Damian Priest a perdu le match par disqualification, il reste champion. Il est vénère, il va attraper Dolph Ziggler à l'extérieur qui ne lui demande pas grand-chose, il va lui placer son finisher, son reckoning. Et oui, d'accord, mais bon, on va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, petite déception peut-être cet affrontement, et je crois que tu n'es pas très fan du nouveau Damian Priest, c'est ça?
Ouais, c'est pas que je suis pas très fan du nouveau Damian Priest, parce que c'est un catcheur que j'aime bien en réalité. C'est juste que je comprends pas trop en fait la direction qu'il lui donne. Je pense pas que c'était utile en fait, si tu veux, de faire ce changement, mais peut-être parce qu'ils ont des plans à long terme avec lui. Après tout, c'est un rookie, c'est sa première année. Donc ils ont décidé un petit peu un changement de personnalité, etc. Mais je trouve que, enfin, pour avoir connu Damian Priest à NXT, moi je préfère carrément qu'on le fasse. Complètement turné, et puis qu'on dit c'est un heel, et puis voilà, plutôt qu'essayer de lui trouver un espèce de truc de tweener comme ça qui, moi, je fonctionne pas énormément à mes yeux, en tout cas, quoi. Peut-être que ça marche, mais on veut aussi développer la fureur qu'il y a dans ce personnage, parce que c'est un personnage qui est vachement over à l'heure actuelle auprès du public. La veille, de ce Monday Night Raw, ils ont fait un house show qui était décimé par les absences du Covid. Donc pareil, ils ont monté une carte à la hâte. Et la superstar de la soirée, bah, ça a été Damian Priest, parce qu'il est New-Yorkais, portoricain, etc., avec toute l'histoire qu'il y a. Et pendant ce house show, j'ai pu voir le match. En fait, j'ai vu le match. Et du coup, il n'avait pas cette attitude-là. C'était assez marrant, c'est assez réservé à la télé, quoi, parce que quand il est en house show, c'est beaucoup plus libre, quoi, de toute façon. Donc voilà, donc le match en lui-même est pas mal, hein. Moi j'ai trouvé que les mecs, c'était plutôt pas mal, catchesquement parlant. J'ai trouvé ça plutôt sympa, hein, un match de 10 minutes 25. Bon, ils s'étaient déjà rencontrés la semaine dernière, donc il y avait un peu de redite, mais Dolph, il vend la marchandise, il scelle toujours aussi bien. Pardon. Donc du coup, ça vend bien le match. Effectivement, cette fin, après, ouais, c'est à la fin, effectivement, le finish est pas terrible, et ça gâche peut-être un petit peu l'ensemble. Je sais pas, sur Damian Priest, écoute, je reste... je trouve qu'il fait un bon run, je trouve qu'il a fait une année 2021 remarquable. Il va la terminer donc en champion US. Au Royal Rumble, il va faire partie, à mon avis, des grosses attractions. Il l'avait déjà été sur celui de cette année. Et je garde plein d'espoir sur ce catcheur. Bon, c'est pas parce qu'il y a effectivement cette espèce de petit truc là, de petit tic là, que je vais m'inquiéter plus que ça. Ce gars continue à me faire une belle impression.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai aucune inquiétude sur sa carrière sur le long terme. C'est un beau gabarit et il a de quoi nous faire grandement plaisir. Par contre, comme toi, je l'appréciais beaucoup à NXT. J'avais bien aimé son début d'année, même s'il était un peu l'acolyte là de Bad Bunny, et j'aimais bien son ce personnage là, l'archer de l'infamie, un peu voilà, un peu solitaire, un peu
ils ont changé son theme song, voilà, tout ça.
Ouais. Et là, honnêtement, bah je vais être un peu dur peut-être, mais pour moi là, il est déguisé en Retribution, en T-Bar et Mace là, avec son mascara, ses grands yeux, et je ouais je trouve un qu'il il latif un peu d'une drôle de manière. Et alors, c'est de mon fait aussi, mais ayant moins bien suivi les derniers shows, là par exemple, typiquement Dolph Ziggler, Damian Priest, je sais plus trop quels sont les alignements, tu vois, parce que Priest, ça a l'air d'être un face, mais il s'énerve, et quand il s'énerve, ben, le public aime bien, mais en fait je trouve ça pas très bien. Voilà, il perd comme un con, et donc le public était pas spécialement ravi de cette fin. Donc c'est un peu bizarre. Alors c'est une phase de transition peut-être, et ça va donner autre chose, mais je suis pas convaincu par ce Damian Priest là, par cet attirail entre guillemets. Donc ça m'a pas, ce segment m'a pas grandement intéressé. En plus, bon, c'est malheureux pour Dolph Ziggler, mais on n'y croit plus jamais en fait. Quand il est challenger, ça fait vraiment celui qu'on prend, parce que on a l'impression qu'il sera plus jamais champion, Dolph Ziggler, alors qu'ils le sont en tag team et tout, mais je sais pas s'il arrivera un jour à un nouveau titre en solo en 2022, je lui souhaite. Mais on dirait toujours qu'on le fout là parce qu'il y a une place, quoi. Donc ça m'a pas emballé plus que ça, dans cette partie de là. Ce main event catchesque m'a un peu déçu. Heureusement, tonton.
Il y a Fardus.
Ouais, heureusement, il y a Fardus. Heureusement, le vrai main event, on nous l'a bien vendu toute la soirée, hein. Ça avait intérêt à être
ça,
bien.
Ouais. Ah, ça, ouais. Ça.
Ah, ça, on en a eu des packages. On va finir ce Monday Night Raw sur de l'amour pour cette fin de l'année 2021 à Raw. On finit par une cérémonie de renouvellement des vœux de mariage entre le Miz et son épouse Maryse. Et pour ça, on l'avait vu en coulisses, je pensais que tu évoquais ce segment, Eric Bischoff est de retour et il sera là avec le Miz. Et c'est lui qui va nous ouvrir en fait l'événement, qui va jouer un peu le rôle de prêtre, hein, et il nous dira qu'il a vu beaucoup de mariages à la WWE, qu'il est très, très honoré. Hein, là, il y a beaucoup de respect. Voilà, le Miz, Bischoff, tout le monde a l'air se respecter. Voilà, ben, on a Miz et on a Maryse qui sont là, et ils vont nous faire leurs vœux, donc leurs vœux de mariage. Donc bah, le Miz, c'est Maryse qui commence, hein, c'est Maryse qui commence par faire ses vœux, qui dit que bah, voilà, qu'elle aime le Miz depuis toujours, et que c'est un formidable être humain, qu'il est incroyable. Donc veux-tu continuer d'être marié avec moi, en gros. Et le Miz va faire de même, va faire ses vœux. Alors il essaye de faire plaisir à Maryse et de parler en français. Donc il nous dira de très jolies phrases. Tu es magnifique, tu es fantastique, je t'aime de tout mon cœur. Bref, Maryse lui dit non, mais parle plutôt anglais, c'est très bien. Bref, tout le monde se dit formidable, se dit oui, c'est très émouvant. Et là, Eric Bischoff dit bon, alors c'est le moment, si quelqu'un a une objection, qu'il se lève. Et puis, bah, un peu comme Kevin Reese plutôt, il nous dit bon, allez, c'est bon, on est à la WWE, on sait ce qui va se passer. Et évidemment, on entend la musique d'Edge qui débarque. Edge qui est le futur adversaire du Miz à Day One. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas détaillé, mais ils en ont quand même beaucoup parlé, hein, que ce soit le Miz, que ce soit Maryse, tout le monde a évoqué Edge et cette méchante personne qu'il était d'après le couple star. Donc, Edge arrive. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pas grand-chose, il veut pas gâcher la fête, et il vient juste dire « Attention !» Alors il leur fait peur un peu, il a dit « Attention, attention, qu'est-ce qui se passe ?» Il regarde autour de lui, le Miz il est un peu paniqué, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a ramené? Quelle surprise ?» Et bon, Edge il rigole, il dit bah, « je suis en train de me moquer de vous, là, y a rien, je m'en vais, allez, je vous laisse tranquille. » Et il dit quand même « Mais est-ce que vous voulez vraiment un mariage blanc ?» Et là, et ça c'est formidable. Tout d'un coup, Maryse et The Miz sont entièrement recouverts d'un liquide noir qui tombe du plafond. Et ça, c'est formidable. Ça, on l'avait déjà vu sur justement sur Dolph Ziggler, sur Vicky Guerrero. Ça, c'est un truc à la John Cena d'habitude. Edge se prend pour John Cena, il a trouvé les bails. Donc, nous finissons l'année avec Edge qui rigole devant le Titantron et le Miz et Maryse qui sont recouverts de pétrole et qui glissent comme des pingouins là sur la banquise. Et c'est formidable. Et est-ce qu'on a beaucoup ri? Est-ce que c'était le meilleur moyen de finir l'année? Tonton Chris, je te laisse nous donner ton avis sur ce main event.
Quelle image pour finir l'année! Quelle image pour finir l'année de Monday Night Raw, tu vois? Ouais. On aurait aimé voir un beau champion avec la ceinture, ou je sais pas quoi, après un grand match, ou voilà, quelque chose, une rivalité hors du commun. Bon, là, on a la rivalité Edge versus The Miz, qui, au demeurant, reste pour moi une rivalité plutôt de bonne qualité. Mais la WWE, comme souvent, a voulu nous coller un segment mariage ou renouvellement de vœux de mariage. Alors, sachant qu'à la WWE, 99,999% des mariages se finissent mal. Donc, on se doutait bien que ça allait mal se terminer. Moi, Edge m'a plutôt fait rigoler, en particulier quand Miz et Maryse ont commencé à s'énerver, à s'embrasser dans tous les sens et qu'il leur a dit de prendre une chambre, quoi. Qu'il fallait se calmer un peu, là. Et voilà que c'est. Et finalement, il les prévient, hein. Il leur dit que c'est depuis le premier jour, ça fait des semaines qu'il cherche à l'embarrasser, à le mettre mal à l'aise, etc. Ben, cette fois, aujourd'hui, c'est lui et on n'en doute pas un instant, quoi. Alors après, est-ce que c'est drôle ce genre de truc? Est-ce qu'on est client ou pas? Moi, j'avoue, des fois, il y a eu quelques comme mariages comme ça qui ont été faits, qui sont réussis, d'autres un peu moins. Là, je le mettrais plutôt dans la catégorie un peu moins. C'était un peu lourdingue. C'était plutôt ce qui était plutôt amusant, c'était la présence de Bischoff finalement. Et puis la performance en français quand même du Miz qui est quand même catastrophique. On se dit que le mec est marié à une bilingue qui devrait quand même parler un petit peu le français. Je dis pas qu'il parle parfaitement le français, mais qu'il en parle un petit peu. Mais il est pas capable de sortir trois phrases. C'est assez fou, quoi. C'est assez fou. Et d'ailleurs, on voit la tête de Maryse quand il tente à parler en français. Alors, il dérive même vers l'espagnol. Hein. Ouais. Elle lui dit non, mais ça c'est de l'espagnol, ça. Donc vas-y, allez, reviens à l'anglais, quoi. Donc ça c'est ok. Et le petit truc, est-ce que tu sais, quand je citais les 99,999% de mariages qui se finissaient mal, est-ce que tu sais quel est le seul mariage à la WWE, mon bon Raphaëlia, qui s'est bien fini?
Est-ce que tu parles d'un mariage dont le segment WWE s'est bien fini, ou est-ce que tu parles d'un couple qui a duré dans le temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui
je parle d'un segment, WWE, d'un mariage qui s'est bien fini, où tout s'est bien passé, où il y a eu zéro problème, et ça a été un mariage, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, en direct live à la télévision américaine.
Je sais pas, bah le mariage de... Je sais pas si c'est bien fini, mais de Indy Hartwell et Dexter Lumis, si c'est bien fini, puisqu'il a fini par dire yes.
Ah oui, ils se sont dit oui, mais ça, c'est parti un peu en cahuète quand même, quoi. Hein. C'est parti en cahuète complètement même, hein, à la fin du mariage de Indy Hartwell et Dexter Lumis.
Je ne sais pas, dis-moi, éclaire ma lanterne.
Écoute, c'est tout simplement le Macho Man avec Miss Elizabeth.
Ah bah oui.
Et Vince McMahon avait tout simplement offert le main event pour le mariage du Macho Man et de Miss Elizabeth, et sans aucune interférence, sans aucun coup de poing, sans rien du tout, un mariage old school, baby. Et c'est donc la seule fois à la WWE un mariage n'est pas parti en vrille. Voilà. Mais bon, là, écoute, en toute honnêteté, franchement, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça long. Edge aurait lui aussi pu quasiment raccourcir un peu sa présence. Et pour passer directement à ce qui se passe à la fin. Et ce qui se passe à la fin, franchement, voilà, je sais pas ce qu'on leur balance, de la peinture noire ou du pétrole. Ou je sais pas ce qu'on leur balance dessus. Mais c'est pas ça qui met une pierre à l'édifice de la rivalité et au match auquel on va avoir droit au pay-per-view. Et je pense que ce segment-là, on l'aura bien vite oublié une fois que la cloche aura sonné entre Edge et le Miz.
Bah, j'espère, parce que c'est plutôt une bonne fun, moi je trouve aussi. Mais déjà de base, renouvellement des vœux, bon, d'accord, ok.
Ouais.
Après, en plus, j'ai trouvé que c'est bizarrement. Enfin, c'est un bon choix, je trouve, de le jouer comme ça, mais. On a un couple heel et au final ils sont mignons, ils s'aiment tous les deux, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis je trouve qu'ils ont raté un peu un truc là, parce que Edge il est dans une espèce de, bah il est un peu John Cena, ouais, il est un peu dans un Edge clean là, et quand il a dit please get a room, t'as envie de lui dire bah mec, qu'est-ce que t'as fait toi sur un ring quand t'étais avec ta meuf et tout, enfin Edge il a tout fait quoi. Et il a eu son lit sur le ring et tout, c'est le pire des mecs avec les meufs à la WWE, que ce soit Vicky Guerrero, Lita, tout ce que tu veux. Donc, je trouve ça dommage qu'il... Bon, évidemment, on va pas faire référence forcément à cette époque-là, mais en même temps, tout le monde la connaît, c'est ce qui fait l'histoire d'Edge. Donc, je trouve qu'il y a un truc raté. En plus, moi, quand il a commencé à dire « je vais vous embarrasser » et tout... Et je pense que je suis pas le seul, il y a eu une sorte de frisson dans la foule, on a entendu beaucoup parler de ce... du fait qu'il y ait Maryse, et donc bah il y a peut-être l'ombre de Beth Phoenix qui plane et tout, et puis bah finalement en fait ça finit par un saut de mélasse ou je ne sais quoi comme tu dis. Honnêtement, ouais, moi je me suis dit là on finit là-dessus. Honnêtement, moi là je suis le public de Détroit, mais on va donner nos notes après. Entre ce main event catches qui finit un peu en autre boudin et ce main event qui donne ça, bon, on peut être indulgent parce qu'il y a le Covid, mais j'avais payé, ouais. Si je paye pour être dans la salle là la dernière demi-heure, bof hein.
Je suis d'accord, hein, mais moi en fait ce que j'ai aimé c'est surtout le tout début, c'est-à-dire une fois qu'ils arrivent sur le ring, parce que le Miz frôle de se casser la gueule dans l'escalier,
ouais.
Et finalement arrive sur le ring, et j'ai bien aimé en fait ce qu'il a balancé au début en promo, qui était vraiment une promo de catcheur quasiment, quoi, vraiment là. Quand il explique que voilà, cette année bah, il a été champion de la WWE, il a dominé dans Dance with the Star là. Qu'il a sa femme dans le même temps qui est revenue à Raw, voilà, il a été champion tag team, enfin il dit pas avec qui d'ailleurs. Et voilà, il lance tout ça, et tout ça c'est bien jusqu'à faire monter la hit au top avec Détroit quand il leur explique, il dit à Maryse que bah voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés aux Bahamas, et bah aujourd'hui ils sont à Détroit. Et,
ouais.
Et bon, tu te rends compte, c'est un public qui acclame les Lions de Détroit, donc vraiment on est vraiment chez les pecnos là. Donc tout ça c'était super bien lancé, ça mettait une belle mauvaise ambiance comme il faut dans le catch, mais après ça s'est éternisé, les vœux, les machins, et Edge en a rajouté une couche en étant aussi long, et puis là il était dans un phrasé, voilà, ouais, franchement je me suis emmerdé pendant le main event de ce Monday Night Raw, je vais le dire, je me suis emmerdé, voilà.
Ouais, bah, j'ai un peu eu ce même sentiment, je suis un peu déçu, et bah, voilà, tant pis, mais c'est vrai qu'on a eu un SmackDown qui a offert peu de choses mais très efficace, et là oui, non, je veux dire le SmackDown d'avant,
d'avant, ah ouais,
voilà. Et là Raw on repart sur les mauvais Raw, alors qu'on a eu, je trouve, des plutôt bons Raw ces dernières semaines, surtout grâce aux personnages qui sont dans ce fameux main event. Là, ils n'étaient pas tous là. Alors, on s'en sort un peu tiré par les cheveux, évidemment. Le contexte, mais comme on dit, le contexte, le Covid, maintenant, ça commence à faire un peu 2 ans que c'est contextuel, donc ça n'arrête pas, en fait, d'avoir des moments où on est dit oui, mais là, c'est un show un peu spécial parce qu'il y a une vague de contamination, etc. Bon, ça devient un peu. Ouais, c'est un peu dommage, surtout dans le côté. Bon, ils s'en sortent bien, parce que comme c'est un house show, tout est à peu près booké. Mais bon, c'est le dernier de l'année, on aurait pu imaginer une touche un peu plus sympathique. Bon, voilà, c'est un peu décevant sur cette fin, mais bah, écoute, tonton, de toute façon, nous arrivons au mot de la fin, donc je pense qu'on va se réserver les pronostics pour SmackDown, hein, on verra tout
bien
ça.
Bien sûr, ouais.
La carte, encore, malheureusement aussi, l'opportunité
oui,
de changer.
Tout à fait, ouais. Carte ouais. Subject to change.
Ouais, c'est un peu le sujet, donc écoute, il ne nous reste plus qu'à donner notre mot de la fin, hein, le top, flop et note.
Ouais, tout à fait, ouais. Et bah écoute, ça va être assez facile, puisque je vais donner mon flop au main event, tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit, hein, je me suis ennuyé. Boring, ce main event. Vraiment, finir le dernier Raw de l'année avec un truc comme ça. J'aurais quasiment préféré finir avec le Damien Priest versus Dolph Ziggler, tu vois, et avoir le segment du match en milieu de show, en mid-card, ça aurait été très bien. De toute façon, c'est une rivalité de mid-card, hein. Peut-être des upper mid-carders, mais c'est quand même une rivalité de mid-card. Donc vraiment, mettre ça en main event, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Et puis si ça avait été mené de main de maître et vraiment un segment vraiment au top, mais là c'est pas le cas, on s'est ennuyé ferme pendant ce main event de Monday Night Raw. Ça c'est pas bon pour la suite, c'est pas bon pour la note. Mon top, j'hésitais entre deux, je vais le donner. Je me demande si la semaine dernière je leur avais pas déjà donné, mais franchement ça mérite tellement. Et puis au moins ils ont eu le mérite de me faire croire que ce Monday Night Raw allait super bien. Donc ça concerne en l'occurrence l'opener, et donc je vais le donner au RK Bro. En sachant que les Alpha Academy ont été de très bons sparring partners sur cet opener. Chad Gable s'est bien débrouillé au micro, et ça a aidé aussi à ça, à faire une belle hit pour rendre encore plus populaires qu'ils ne le sont déjà les RK Bro. Et vraiment j'adore cette tag team, quoi. C'est la découverte de l'année, hein. Randy Orton, je l'avais déjà vu en tag team avec Evolution, etc. Mais là, je le découvre sous un autre angle. Je redécouvre Randy Orton. Et c'est un super plaisir. C'est vraiment agréable de voir un mec, voilà, qui a 42 ans, je crois. Et de le redécouvrir maintenant sous un angle complètement différent et avec un partenaire complètement déjanté. Et qui sont tous les deux dans le ring. Quand on voit bien, il y a une belle alchimie entre les cordes, en plus, entre tous les deux, là. Donc, vraiment, c'est un vrai plaisir de les retrouver tous les lundis soirs. Donc, sans hésiter, mon top RK Bro, baby. Et puis, ma note, ça a été un show réécrit à l'arrache. Il y a eu plein de trucs un peu bizarres, plein de trucs, tu te demandes si c'est pas quasiment improvisé avant que la cloche sonne. Il y a beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de vignettes, du coup, évidemment, dans ces cas-là. Je sais pas, le petit match Street Profits Mysterio, c'était quand même bien sympatoche. Mais un main event tellement catastrophique que finir le show là-dessus, ça me fait chier. Même avec le face turn de Edge Styles qui se profile. Ouais, je vais être sympa parce que c'est les fêtes. Je vais leur mettre un 2,75. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait été chaud. Mais là, je vais leur mettre un 2,75. Allez, à juger.
Adjugé vendu. Écoute, j'aurais pu garder les mêmes top et flop que toi, c'est à peu près ce que je m'étais dit, donc je vais les personnaliser un petit peu plus. On va faire un hommage à cette année 2021, avec ceux qui avaient un peu débuté 2021 en feud, justement. Donc je vais donner le flop à Edge, juste, je sais pas pourquoi, ça m'a énervé, alors c'est pas sa faute à lui, mais voilà, qu'il arrive pour nous faire du John Cena en couvrant le heel de caca ou de mélasse ou je sais pas quoi. Non, ça c'est pas bien, c'est pas son style à Edge. Donc flop à Edge et top par opposition à Randy Orton. Hein, les deux étaient en antagonisme au Royal Rumble. Pour moi, Orton, effectivement, je suis impressionné. En fait, ce qui est dingue, c'est que Orton, on le connaît depuis toujours là. Et pendant longtemps, Orton me saoulait. En fait, pendant longtemps, je trouvais qu'il apportait plus rien. Et je me disais, mais en fait, un mec qui a été champion du monde à 24 ans, c'est un peu ce qu'on voit avec Charlotte aussi en ce moment. Tu te dis, au bout de 10 ans, tu peux plus, même si t'es encore bon physiquement, même si t'es encore le même, en fait, tu peux plus te réinventer. Et Orton, en fait, je trouve qu'en 2020 et 2021, il a été extraordinaire, parce qu'en 2020, il a été le pire heel qu'il a jamais été, là, quand il attaquait Ric Flair, Shawn Michaels et tout, là, quand il attaquait les anciens, on l'avait jamais vu aussi détestable et aussi dangereux, je trouve. Et là, en un an, il est devenu ce bon pote, là, un peu ce daron, là, ce grand frère qui est un peu saoulé par le petit gigoto, mais qui laisse faire et qui sourit quand même en coin parce que ça le fait marrer les conneries. Donc, respect. Et très belle réussite. Et d'ailleurs, je pense que la team Edge Styles Homos, dont on espérait tant, s'est quand même clairement aussi fait rouler dessus et passer devant parce qu'il y a eu ça, hein, parce qu'il y a eu... Alors, Kay Brook n'était pas prévu forcément dans les plans, mais sinon, le spot était peut-être pour eux. Ils l'étaient en début d'année, puis après, ils se sont fait largement passer devant. Donc, bravo à Andy Orton et puis son acolyte. Et moi, je suis un peu plus sévère, hein, parce que, justement, j'ai trouvé que le show commençait bien. Et puis, plus ça allait, plus je dis, des matchs même avec tout le talent de Kevin Owens ou autre. Je suis sûr, le truc avec MVP, c'était long. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre là, je suis en train de me revoir un peu les segments sur ma carte. Apollo Crews, c'était décevant, comment ils ont scénarisé ça avec le commandeur Aziz. Donc moi je mets 2,25, je vais pas mettre la moyenne, c'est je mets 2,25.
Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Moi, c'est juste parce que je suis d'humeur de Noël, quoi.
Bah, très bien, bah, écoute, reste le plus possible dans ta bonne humeur de Noël. En tout cas, tonton, ça m'a fait plaisir de faire une review avec toi et d'être de retour sur les ondes. Donc, merci pour ta présence.
Pareil, ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment là qu'on s'était pas croisé dans le studio, quoi. Donc c'est cool, mais c'est reparti.
Et c'est reparti pour un tour, peuple de ketchup. N'hésitez pas hein, à nous donner vos avis en commentaire, à interagir, à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube et puis sur toutes les plateformes de podcast, hein, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud. Vous pouvez aussi nous parler sur Twitter, nous sommes très actifs. Il y a page Facebook, compte Instagram Ketchup, Ketchup CDC. Et bien sûr le Discord de Ketchup, où on parle rubrique spoiler, rubrique WWE, rubrique AEW, rubrique catch même français, tout ce que vous voulez, on parle de catch, vive le catch.
Vive le catch, oui.
Voilà, les plantes le disent, alors vive le catch, vive le catch.
Si, y a, vive si, le catch. Si. Un petit appel, s'il y a parmi vous un spécialiste de Twitch, je cherche à prendre des cours en ce moment.
Ah oui, voilà. Prochaine étape, le Twitch live. Non, mais on verra, on va vous préparer de nouvelles émissions. On espère, on va essayer de se tenir à de bonnes résolutions pour 2022. En tout cas, on vous fera une émission Award, c'est sûr. Donc n'hésitez pas direct hein, sur le Discord ou autre à nous donner vos tops et vos flops pour cette année 2021 qui s'achève. En attendant, on va boucler nos ceintures. On va aller suivre SmackDown avec attention. Et puis, on va se préparer vers Day One. Hein, c'est quand même une drôle de configuration, un peu inédite d'avoir ce premier jour de l'année, ce premier pay-per-view. On est chaud, on est motivé. Merci tonton Chris, ce fut un plaisir de t'avoir à mes côtés.
Écoute, merci à toi, ça a été un plaisir de t'avoir de retour à la presentation et pour un hosting de qualité. Et écoute, j'espère que le peuple de Ketchup en aura profité.
Bah, je leur souhaite, merci de nous écouter, passez de bonnes fins de fête, hein, une bonne transition vers la nouvelle année si on ne s'écoute pas, on ne se parle pas d'ici là. Et puis bah voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de catch. Ciao à tous.
Salut Raphaël, salut peuple de catch. Virman, tu l'avais oublié. Toi aussi, tu l'avais oublié.
Bah, il était pas là, mais il a, à cause du Covid, je pense.
Ce mec, quand il arrivera, il faut qu'il soit champion du monde.